Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et le deuxième est fantastique alors qu'on avait le main sur le match.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois
peut-être ils avaient besoin d'entendre une nouvelle
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bon, faut pas bégayer derrière ça. Salut tout le monde, bienvenue dans l'after en direct jusqu'à minuit. L'after 7 jours sur 7 à la radio et 24 heures sur 24 en podcast. L'équipe ce soir, coach Courbis, re mon coach.
Re salut à tous.
Et Kevin Diaz qui nous rejoint. Salut Kevin.
Salut à tous.
L'after en direct sur RMC à la radio, en direct vidéo également comme tous les soirs de la semaine du lundi au dimanche jusqu'à minuit sur la chaîne vidéo de l'after @after-foot. Vous pouvez venir nous voir, vous pouvez venir commenter votre soirée foot. Vous pouvez mettre ça sur la télé, hein, sur les télé connectées, vous mettez l'appli YouTube, vous likez la chaîne de l'after et comme ça vous pouvez mettre l'after à la télé. Voilà, c'est magnifique. Je vous lis également sur Direct Studio. Dans quelques secondes, le débrief de ce match nul ce soir entre l'Olympique de Marseille et Strasbourg. C'était à la Mino, un partout entre ces deux équipes. Mais Marseillais, mais Strasbourgeois, je vous attends au 32-16. L'OM qui reste 9e de Ligue 1. Strasbourg remonte à la 12e place en attendant les matchs de demain. On va revenir également sur la victoire lensoise. Eux, ils sont vraiment partis, les Lensois. 3-0 cet après-midi à Clermont. Un match animé, engagé, des buts, des cartons rouges. Là aussi, Lensois, Clermontois, le 32-16. Vous êtes ouvert. Et puis, on sera avec Julien Laurence dans le dernier quart d'heure, parce que c'était une énorme journée aujourd'hui en Angleterre. Il y avait bien sûr le City-Liverpool, un but partout. Les adversaires des clubs français en Ligue des Champions la semaine prochaine jouaient. Newcastle a battu Chelsea 4-1. Arsenal, nouveau leader de Premier League, a gagné à Brentford 1-0. Julien Laurence va tout nous raconter de cette journée de folie en PL. Juste avant de démarrer sur les trois points, les résultats du soir, c'est terminé entre l'Atlético de Madrid et Mallorca. L'Atlético s'est imposé 1-0 ce soir. Les Français étaient chauds puisque c'est Griezmann qui donne le but de la victoire. Et puis en Italie ce soir, l'AC Milan a battu Fiorentina 1-0. C'est Théo Hernandez qui a marqué le but de la victoire sur pénalty. Giroud n'était pas là, suspendu. Et donc l'AC Milan s'est imposé. Le Napoli a gagné cet après-midi à l'Atalanta 2-1. Et puis je le signale, Kevin est là, on en profite. L'Ajax qui fait une petite remontada en Eredivisie. Enfin. Victoire 5-0 contre le Vitesse Arnhem. Troisième victoire en 4 matchs.
Il était temps quand même.
Il était temps. Ça va un peu mieux pour l'Ajax. Il est 22h59, je vous lis sur YouTube, je vous lis sur le Direct Studio, sur Twitter, le hashtag RMC Live, et bien sûr, on vous attend au 32-16. L'after, ça démarre tout de suite avec les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Hein. Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Ah ouais. Kevin, tes 3 points pour commencer.
Le premier point, c'est bien sûr le bon point pris par l'Olympique de Marseille, presque, j'ai envie de dire. Non, c'est vrai que l'OM, c'est un peu inquiétant là depuis quelques semaines. Et par contre, en deuxième point, c'est le bon match finalement de cette équipe de Strasbourg qui, je pense, aurait même pu aller chercher cette victoire. D'ailleurs, c'était leurs ambitions dans les dernières minutes. Et en troisième point, c'est la belle remontada pour le coup de cette équipe lensoise qui gagne des matchs. Ils sont pas flamboyants, mais ils gagnent 3-0 à l'extérieur. C'est beau.
L'important, c'est les 3 points pour tout le monde, sauf pour coach Courbis, bien sûr. On reste sur les 2 points, comme d'hab.
Je savais pas quoi penser de ce Clermont-Lens, donc je l'ai regardé attentivement. Alors, il y a des tas de choses à dire, des expulsions, des joueurs en moyen, mais bon, je résumerai si on change les gardiens. Donc c'est pas ce match-là qui va me faire changer d'avis sur l'importance d'un gardien de but dans une équipe de football. Et ensuite, autant la première mi-temps de l'OM, je l'ai trouvée intéressante, à nouveau, avec cette deuxième mi-temps, on peut pas dire que c'est un point de gagné. Je pense plutôt que c'est 2 points de perdu. Et donc, cet OM est quand même assez inquiétant. Vivement, de renfort au prochain mercato.
32-16, mes supporters marseillais, mes strasbourgeois, on vous attend. Kevin, coach, bon, en fait, là, après ce match quand même à Strasbourg, 15e de Ligue 1 avant le coup d'envoi de cette journée, il est 23h, un partout, le constat il est là, Marseille, il y a zéro progrès.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de progrès, et au final, comme quoi les changer un entraîneur, c'est pas toujours la meilleure solution, même si bien sûr des fois il y a un aspect psychologique ou même technico-tactique qui peut faire évoluer certains joueurs, faire évoluer une équipe dans le bon sens, mais on retrouve quand même des failles individuelles dans cette équipe de Marseille. Je suis désolé, sur la première mi-temps, encore une fois, la défense centrale, que ce soit Mbemba ou Balerdi, ils assurent pas vraiment et ils rassurent pas surtout cette défense ou les supporters marseillais. Au milieu de terrain, je trouve que Kondogbia, Vertu, je trouve que c'est très correct. Je sais pas ce que le coach en pense.
Ouais,
pour moi, c'est très correct, les deux, ce qu'ils font. D'ailleurs, Vertu depuis le début de saison et Kondogbia depuis qu'il est revenu dans cette équipe. Par contre, pour moi, les quatre offensifs. J'aime toujours Ndiaye parce que c'est un joueur qui on voit, il a des qualités, il est quand même volontaire. Mais quand même, que ce soit lui, Harit, Correa ou Vitinha, je suis désolé, c'est pas aujourd'hui du niveau top 5 de Ligue 1, top 4, ou voire même top 3 ou top 2 où veut finir l'Olympique de Marseille. Aubameyang qui rentre derrière, c'est pas bien mieux malheureusement. Et pourtant, je pense qu'il peut bien sûr aider cette équipe. Ismaël Assar non plus. Et le dernier, c'est Hasdine Ounahi qui n'est pas non plus aujourd'hui un joueur qui va jouer dans une autre équipe du top 3 en Ligue 1. Donc, malheureusement, les failles de l'OM, je suis pas sûr qu'elles soient uniquement collectives, mais elles sont surtout individuelles. Et ça, c'est quand même inquiétant parce que, bien sûr, un joueur peut avoir une méforme. Mais là, la méforme de certains est dure depuis un bail.
Roland, tu finissais ton deuxième point en disant vivement des renforts au mercato.
Mais là,
des renforts, en fait, faut racheter une équipe entière.
Pas du tout.
Peut-être pas une équipe entière, mais...
Pas du tout. Les trois arrières centraux avec Gigot, trois pour deux postes, bon, on a déjà vu pire. Les deux latéraux, ça va. Rongier, bon, malheureusement, il pourra pas rejouer tout de suite. Mais quand tu as ces deux milieux, Veretout, Kondogbia, ok. Harit, allez, ça passe.
Moi, Harit, ça passe, coach. On peut en parler quand même.
Oui, sur le match de ce soir, moyen. Pas mais au moins, tu lui trouves quand même un certain talent. Après, le trio qui a démarré le match.
Le trio.
Mais là, si tu me demandes de donner une note, sincèrement, même par politesse, je préfère pas la donner.
Le trio, non, donc c'était.
Il faut qu'il sache que premièrement,
Ndiaye et Correa.
On est en Ligue 1. Deuxièmement, on est à l'Olympique de Marseille. Et troisièmement, on a l'objectif de terminer dans les trois, voire quatre premiers avec ce trio-là.
Ouais, jamais.
Mais comment tu peux faire pour y arriver?
Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Et surtout que, encore une fois, Vitinha, il faut lui laisser du temps. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il sera bon dans les prochains mois. Mais pour l'instant, c'est très, très limité. Même s'il y a de l'envie, il n'y a rien à dire. Le mec, il fait les courses. Mais Correa, moi, je peux pas. Depuis qu'il est à l'OM, je suis désolé.
Mais c'est ce qu'on disait pendant
je comprends pas comment ce mec est titulaire à l'OM.
C'est que, Vitinha, tu vois des limites, mais c'est ce qu'on dit au moins. À chaque fois, on dit, bon, il se bat défensivement, il va récupérer des trucs. Correa, il y a quoi? Il y a rien?
En fait, il fait une reprise du genou à un moment.
Oui.
Mais en fait, il doit l'attaquer du plat du pied, il doit frapper ça au sol. Et là, il fait une reprise du genou. Bon, certes, elle est cadrée, il y a un très bel arrêt du gardien. Mais je sais pas quand est-ce que tu as vu un attaquant marquer de la cuisse quand même, c'est rare. Donc même son geste, il est pas vraiment précis, même si, ok, je rappelle, il y a un très bel arrêt de Matthels. Mais franchement, cette équipe, aujourd'hui, moi, je peux dire l'entraîneur. Non, franchement, ce que met en place Gattuso, on voit, bon, ce 4-2-3-1. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, et là, on peut peut-être se tourner vers le recrutement, même si moi, je remets pas du tout en question les qualités de Pablo Longoria ou de son équipe, mais aujourd'hui, il y a des joueurs.
Pourquoi pas les remettre en question?
Des conneries.
On voit les deux derniers mercato.
Tout le monde en fait. Des erreurs de recrutement, tout le monde en fait. Faut-il encore le constater et les réparer? C'est pour ça que je te dis, je fais toujours la différence entre une recrue et un renfort. Là, au mercato d'hiver, il faut impérativement deux renforts.
Oui. Deux, moi je dirais
minimum.
Je dirais même trois.
En faisant beaucoup mieux, en ayant plus le pif que les deux derniers mercato de janvier de cet été qui sont ratés de la part de Longoria. Hicham, supporter de l'OM, nous appelle au 32-16. Salut Hicham, bienvenue dans l'after.
Salut l'équipe, salut coach.
Salut Hicham.
Vous allez bien?
Bah ça va et toi? Mais Hicham, supporter de l'OM alors?
Dis-moi. Ouais, ça va.
Tu penses que l'OM a gagné un point ou a perdu deux?
Je sais plus, coach. Franchement, je sais plus. Tu sais, on est dans le ventre mou du championnat. On est devenu Strasbourg, Clermont. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Déjà, premier point physiquement. Physiquement, c'est le jour et la nuit entre la première mi-temps. La première mi-temps, tu peux rien leur reprocher. On prend un but. Balerdi, encore une fois, un but de plus. Tu les comptes parmi je sais pas combien de buts de plus que tu te prends. Je comprends pas.
Ouais. Il n'y a pas que lui, mais c'est un peu dur pour ce but-là.
Je vais pas m'attarder sur lui, mais le constat que je fais physiquement, c'est que soit Marcelino s'est foutu de notre gueule et au mois d'août, ils ont fait des planchas et des barbecues, ils se sont pas entraînés, ils ont pas fait de foncier, mais c'est pas possible. Tous les matchs, à partir de la 55e, il n'y a plus de souffle. Il n'y a plus de souffle, il n'y a plus d'équipe. Tu recules et tu te mets en danger.
Faut pas oublier, Hicham, que ce n'est pas une excuse, c'est un fait. Il y a quand même pas mal de joueurs marseillais qui rentrent de sélection. C'est pas le cas de toutes les équipes. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs en sélection du côté de Strasbourg, par exemple.
Quand t'as 5 changements, quand tu peux faire tourner.
Ok, non, ça je l'entends.
C'est compliqué d'arriver à. C'est pas à la 80e. À la 55e, on s'est mis à reculer et on n'a plus joué.
Est-ce que c'est vraiment physique? Vous avez vu ça aussi, Kevin, coach?
Il y a un vrai problème. Moi, je suis pas sûr que ce soit forcément physique, même si ce que dit Hicham, c'est vrai qu'on voit que les Marseillais, mais parce qu'aussi, ils tentent de très bien faire en première mi-temps, ils n'arrivent pas à se mettre à l'abri, ils concèdent un but. Alors, tu parles de Balerdi, oui, en effet, il est pas très bon sur la sortie, il est pas très bon ensuite sur le replacement et la couverture, mais Mbemba, depuis le début de saison, c'est quand même loin d'être le Mbemba qu'on a vu par période l'année dernière, parce que quand j'avais dit Mbemba, on m'avait dit, voilà, qu'est-ce que t'avais pas dit sur Mbemba? Ben voilà, c'est le joueur que j'ai vu au Portugal, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut avoir une très très bonne période, mais qui peut être aussi bien moins bon sur un enchaînement de matchs. Après, il est toujours intéressant, notamment sur coup de pied arrêté offensif où il pose des problèmes à l'adversaire. Mais après, c'est ce que je disais. Vraiment, là, c'est individuel. Il y a des joueurs. Pour l'instant, moi, je suis pas du genre à dire, voilà, le gars, il est nul. On va pas dire ça. Mais il y a des joueurs qui, pour l'instant, sont très loin du niveau qu'on attend pour certains postes à l'OM.
Oui, puis bon.
Juste, si je peux me permettre, pour revenir sur ce point-là, c'était mon deuxième point, c'est les apports individuels. Quand t'as un mec comme Correa qui joue avec cette nonchalance sur ses 1 contre 1, t'as l'impression qu'il est au 5 de Bobigny, le mec.
Parce que 5 de Bobigny, il touchera pas un ballon, je te le dis.
Non, mais il tricote, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il fait, il n'y a pas d'intelligence dans son jeu. Enfin, je sais pas, moi, Correa, il y a un vrai problème. Je vous trouve un peu dur avec Amin Harit parce que il a quand même du peps, il donne.
Le numéro 10 de l'OM, Hicham.
Je sais, mais quand tu vires tout le monde, à un moment donné, tu parlais tout à l'heure de la politique de Longoria. Quand tu vires Payet,
Payet, c'est fini, Hicham.
Oui, c'est fini, je suis d'accord, mais c'est des joueurs, aujourd'hui, c'est pas des joueurs sur lequel tu peux compter sur 90 minutes, mais des joueurs de complément. T'as viré tellement de joueurs. Et au-delà de ça, tout à l'heure, on parlait, là, tout de suite, des individualités. Moi, Correa, je comprends pas, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Mmh. Et pareil, Liman Ndiaye, je l'aime bien, je peux lui donner sa chance. On est au mois de novembre, les gars, bientôt décembre. À un moment donné, mon garçon, t'arrives à l'OM, t'es plus en championship, t'es plus en je sais pas où. Là, à un moment donné, va falloir mettre les ingrédients. Il est très bon balle au pied, il est très bon en 1 contre 1, et en couverture, dos au but, il est très bon. Mais à un moment donné, il va falloir être efficace devant le but, il va falloir créer des choses. Et voilà, et aujourd'hui, quand tu dis sors-moi un joueur de ce match-là de l'OM, le seul joueur que je peux sortir, c'est Gündoğan Verretou ou Jonathan Clauss. À un moment donné, c'est...
Oui, avec quand même un problème pour le coach, dans le sens que ce duo, ok, c'est très bien, mais tu as pas un troisième joueur comme pouvait être Rongier pour qu'il se partage un petit peu le boulot. Et c'est vrai que dans la deuxième partie du match, ben il souffre un peu physiquement.
Tiens, d'ailleurs, Gündoğan qui vient de réagir au micro du diffuseur, là, le micro de Canal, il dit deuxième période plus que mauvaise. On n'a pas respecté les consignes de la mi-temps. On doit faire beaucoup plus. On n'est clairement pas à notre place. Voilà ce que dit Gündoğan ce soir.
Non, on n'est pas à notre place. On n'a pas le niveau. Il faut arrêter de penser qu'on va jouer la troisième ou la deuxième place. Là, il faut vraiment se remettre en... Parce que c'est un peu le discours qu'a Tolisso ou je ne sais pas qui à Lyon. Oui, on n'est pas à notre place. Non, non. Là, les gars, vous êtes mauvais.
Je suis d'accord.
Vous ne mettez pas les ingrédients. Arrêtez de... Oui, on n'est pas à notre place. C'est pas parce
pour l'instant, tu es à ta place. Pour l'instant, tu es à ta place. Je suis complètement d'accord.
Tu es à ta place.
Ça ne veut pas dire que l'OM finira pas dans les 10 premiers. Mais pour l'instant,
tu
es à ta place.
Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Enfin, ce n'est pas contre toi. L'OM ne va pas finir dans les 10 premiers. C'est un scandale
Je viens de dire au contraire. Je ne dis pas que l'OM ne finira pas dans les 10 premiers, mais pour l'instant, ils sont à leur place.
Oui, Oui, voilà, ils sont à leur place. Mais tu te rends compte qu'on est au mois de novembre et on ne dit pas l'OM va finir dans les 5 premiers, on dit dans les 10 premiers. Tu te rends compte où est-ce qu'on est tombé? Et c'est pour ça, en fait, c'est quand tu m'as posé la question, quand j'ai pris le téléphone et tu m'as dit c'est un point de perdu ou un point de gagné, quand je te dis je ne sais plus, c'est là où on en est, les supporters marseillais. Mmh. On ne sait plus, en fait, on ne sait plus où on va. Avec... Et même le coach, moi, je n'ai rien contre Gattuso, mais... Il a le BAFA, ce mec-là. C'est pas un coach. Il a pas de consigne tactique. On voit flou. On sait pas qu'est-ce qu'il veut mettre en place. Moi, si aujourd'hui vous êtes capable, coach, si aujourd'hui t'es capable de me dire le schéma tactique, ce qu'il veut faire, il change juste des bonhommes. Il a un tableau noir. Il fait un 4-3-3. Il place des bonhommes. Il n'y a pas d'animation.
Non, c'est pas un 4-3-3. Il y a eu le 4-3-3. Oui. Toi, 4-2-3, là. Là, on est en 4-2-3.
Oui, donc, c'est un 4-2-3, mais ce que je veux dire par là, c'est que en termes d'animation, tu dors, tu comprenais. Ouais, Sampaoli, tu comprenais. Là, tu comprends pas ce qu'il veut faire. L'autre, là,
Sampaoli, Hicham, on comprenait pas toujours.
À la fin, tu comprenais plus quand même.
On comprenait pas parce qu'il avait, il faisait ses remises en question à la Bielsa. Un jour, il était en 5-3-2. Un jour, il était. Mais tu sentais qu'il y avait une volonté d'animer cette équipe.
Des fois, là, c'était même un 3-2-5.
Là, il n'y a pas d'animation, tu comprends pas ce qu'il veut faire. Et après, bah voilà, les attaquants, qu'est-ce que je te dis, moi, Vitinha a acheté 32 millions, le plus gros transfert de l'OM. On est là à dire, oui, il a de l'abnégation, mais heureusement qu'il court, heureusement qu'il fait le pressing. S'il faisait pas ça, qu'est-ce que ce serait? Et Aubameyang,
ce serait Correa.
Mais voilà. Ouais. Et Aubameyang, je l'avais dit à l'intersaison, je dis, écoutez les gars, arrêtez de vous enflammer. On l'a acheté pour zéro cacahuète. Il nous coûte je ne sais pas combien. On a perdu Alexis Sanchez, on a pris lui. Il a été jarté de Arsenal, jarté de Barcelone, jarté de Chelsea. Chelsea qui a facilité son transfert. Ils ne l'ont pas facilité parce que c'était un crack. Hein. C'est parce qu'ils savaient très bien qu'il était en fin de carrière. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et c'est ça, en fait. Enfin, aujourd'hui, j'en suis à de la désolation. Je regarde le match.
Et on l'entend.
Il n'y a même plus de passion. Quoi. Et c'est ça qui est relou, en fait. C'est ça qui est relou. Mais c'est pas pour autant que jeudi, je vais pas être devant le match de Ligue Europa. Je vais être à fond derrière eux. Je vais regarder. Mais
le match d'après de championnat, c'est contre qui?
Rennes. Marseille-Rennes. Okay. Et tu fais l'Ajax jeudi prochain et Marseille-Rennes, ce sera le match de dimanche prochain.
Pas, oui, à Rennes, on est fatigué parce qu'on a joué jeudi. Hein. Parce que là, franchement, je vais revenir gros comme
ça. Rennes aussi aura joué le jeudi.
Ouais. Hicham, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, en tout cas.
Merci infiniment, les gars. Prenez soin.
Allez, Hicham. Salut, Hicham. Et toi aussi, profite bien ton week-end quand même, Hicham. Salut, à bientôt. Bye bye. Garen nous appelle au 32-16, supporter de l'OM.
Bonsoir tout le monde.
Salut, Garen.
Salut, Garen.
Bienvenue sur RMC, Garen.
Écoutez les gars, moi je suis supporter de l'OM depuis très longtemps et je suis un peu, en fait, je sais pas si vous avez un peu des infos sur ça, mais moi en tant que supporter, franchement ces derniers temps, j'ai du mal à regarder les matchs de l'OM et j'ai l'impression que j'ai perdu un peu de passion pour l'OM. C'est dur à dire, hein, mais et je suis pas le seul dans mon entourage parce que moi j'habite à Marseille, donc j'ai ma base à Marseille, donc je côtoie beaucoup de monde et franchement c'est très grave où on en est arrivé parce qu'on a réussi à perdre la passion pour notre équipe. Alors oui, le stade est plein, mais les vrais supporters de l'OM, comme moi et comme beaucoup, eh ben, on n'arrive plus à s'identifier à cette équipe, en fait.
Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que, regarde, les incidents de la commanderie, c'était pas si vieux, ça a deux ans et demi.
Ouais, t'as eu... pas si vieux, mais ça a deux ans et demi. Et depuis ce temps, il s'est passé beaucoup de choses. On a perdu des cadres, on a perdu des légendes, entre guillemets, du club. Ces 10 dernières années, on n'a plus de joueurs avec qui on peut s'identifier. On a tout le temps d'entraîneurs qui changent. En fait, on a plus de lien avec ce club. Et je pense que ce qui s'est passé, les réunions, tout ça, en fait, je pense que c'est tout ça. Parce que moi, je vous le dis en tant que supporter, il n'y a plus de lien avec le club. En fait.
C'est vrai, Garen, j'aimerais bien entendre, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, Kevin et coach, là-dessus. C'est que, bon, Longoria, on l'a compris, depuis qu'il est là, depuis 3 ans, la méthode, c'est tous les ans, on change 80% de l'équipe. Et j'avais déjà entendu des supporters de l'OM dire t'as du mal à t'identifier, parce que finalement, il reste le club, mais les joueurs, il n'y a aucun joueur vraiment qui reste longtemps. Donc, tant que ça marche, finalement, tout va bien. Mais est-ce que quand ça commence à moins bien marcher, comme c'est le cas en ce moment, ça peut poser ce problème d'identification, là, comme le dit Gary.
Alors après, il y a quand même la réalité du football business aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as un joueur qui performe très fort, comme Camara, comme Saliba, même si c'était un joueur en prêt, Saliba, aujourd'hui, c'est impossible pour l'OM de le garder plus de 2 saisons, par exemple. 2 saisons, c'est déjà bien. Saliba, ça a été une seule. Pour Guendouzi, t'as un joueur avec qui t'avais, tu pouvais quand même t'identifier à Guendouzi. Je sais pas ce que t'en penses, Garen, mais ça reste un joueur, bon, un mec qui donnait tout. Maintenant, Guendouzi, pareil. Guendouzi, c'est un joueur qui avait des limites aussi pour certains matchs ou avec certains coachs.
Il aurait pu jouer facilement.
Non, non, je ne dis, attention, je ne dis pas que le gars n'a pas les qualités pour jouer à l'OM. Je dis juste qu'il y a des limites. Alex Sanchez, il vient, c'est extraordinaire. Il fait une saison incroyable. Maintenant, il est en toute fin de carrière. Finalement, pour raison et d'autres, il décide de retourner sur le banc à l'Inter. Après, c'est aussi son choix. Bon, on peut considérer peut-être que l'OM n'a
pas l'OM aussi, hein,
peut-être que l'OM n'a pas pour le garder.
Reconnu, hein.
Tu n'irais avec un exemple comme Aubameyang. Moi, mon truc, c'est de dire, aujourd'hui, il y a des réalités dans le foot. C'est soit tu vas aller acheter un joueur, un jeune joueur portugais, et tu vas devoir miser sur lui. Et soit t'es le PSG et tu peux envoyer 70 patates sur Ramos, et encore, t'es même pas sûr qu'il les vaut. Et si t'es l'OM, bah t'envoies 32 patates sur le Ramos de Braga, non celui de Benfica, et t'espères qu'il devienne ce que tu peux. Ou alors tu vas chercher un mec de 35 ans comme Aubameyang et t'espères qu'il lui reste un peu de foot dans les chaussettes. Mais on n'est plus dans un championnat où tu peux aller chercher le top joueur dans son prime à 27-28 ans. Ça n'existe pas.
Mais sauf que Sanchez, il voulait bien rester.
Oui, mais Sanchez, c'est ce qu'il dit.
Payet, c'est pareil. C'est Longoria qui lui a dit au revoir. En tout cas, est-ce que Payet aujourd'hui dans cette équipe de l'OM,
tu ne sais pas si c'est Longoria. Mais non,
Payet l'a reconnu aussi.
Longoria, non mais Payet, faut arrêter. Payet,
une conférence de presse à côté de Longoria.
D'accord. Mais je te parle de juste pour finir sur Longoria et Alex Sanchez. Alex Sanchez, Longoria a dit qu'il lui avait fait une offre équivalente, supérieure ou équivalente à Aubameyang. Après, tu le crois, tu le crois pas. Moi personnellement, je le crois. Si Alex Sanchez préfère retourner sur le banc de l'Inter, ou il préfère ne pas accepter pour raison et d'autres, voilà, ou il préfère temporiser. Bon, on va pas temporiser avec Alex Sanchez non plus jusqu'à fin août. Donc, il y a des réalités aujourd'hui.
Garen.
Après les gars, si je parle d'un truc, bon, nous là, on fait l'émission et on parle juste après le match, donc on détaille les joueurs. Mais moi, je pense que c'est plus un aspect en fait collectif. C'est pas tout le monde qui est devenu mauvais du jour au lendemain. Les 11 joueurs ne sont pas devenus mauvais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de, comme je disais, il n'y a pas de régularité dans le club et avec les entraîneurs. Donc, automatiquement, les joueurs sont perdus sur le terrain. Unai n'est pas devenu un joueur nul, mais le problème, c'est qu'il n'est plus un peu devant l'autre.
Oui, mais Garen, excuse-moi de te couper, mais aujourd'hui, tu sais, c'est quoi la moyenne d'un entraîneur en Ligue 1?
Ouais, c'est un
voilà. Donc, il y a un moment, c'est pas que l'Olympique de Marseille. C'est une réalité de tous les clubs. Même le PSG.
Mais quand on parle de transfert à 32 millions d'euros, on fait des paris. Le problème, c'est que t'as l'OM, c'est pas à Rennes, c'est pas à Brest.
Moi, c'est
Paris. C'est qui... Mais Roland. À un moment donné, il faut faire des choses où quand même on est à peu près sûr sur certains joueurs. Et là, le problème, c'est qu'il y a trop de paris. Trop de paris.
Coach, ce qui m'emmerde, les amis, enfin, ce qui m'ennuie,
ouais.
Après, chacun a sa vision des choses, on fait les comparaisons avec la saison dernière. Et on prend comme exemple la saison dernière. Et pour moi, la saison dernière, c'est la responsable du problème de cette année. Quand, par exemple, on me dit que la saison dernière, c'était extraordinaire, et qu'on parle de Payet, un de mes plus gros regrets, c'est l'utilisation de Payet la saison dernière, qui pour moi, il avait encore la possibilité et le talent de pouvoir se chauffer pendant une heure et de rentrer dans les 30 dernières minutes. Ensuite, le résultat de l'OM la saison dernière, avec ses 23 ou 24 points perdus au stade Vélodrome, je parle même pas de l'élimination contre Annecy, où il y avait un autoroute pour gagner la Coupe de France. Donc, cet OM de la saison dernière, c'est un OM qui, dans le pire des cas, aurait dû terminer second. Et en terminant second, il n'y avait pas le problème de l'intersaison. Il n'y avait peut-être pas le départ de Tudor. Il y avait peut-être une ossature qui aurait été gardée. Donc ça, je dis, chacun a sa vision des choses. Moi, je dis pas que la mienne, c'est la bonne, c'est la mienne. Si on m'argumente différemment, donc je répète, la responsabilité et le responsable de la saison de cette année, c'est la saison dernière, alors que tout le monde était content, et moi j'étais un des rares à ne pas l'être.
Et finalement, peut-être seule éclaircie pour l'OM dans les semaines à venir et pour le mercato qui se profile, c'est l'arrivée officielle effective de Mehdi Benatia aujourd'hui. Il était dans les tribunes, aux côtés de Pablo Longoria, donc qui va peut-être amener quelque chose de différent pour le prochain mercato. Merci Garen d'avoir été là.
Merci
ce soir.
Vous, les gars.
Salut Garen. Bonne soirée. À très vite sur RMC. Salut Garen. 23h21. L'after live, l'after sur RMC en direct avec Kevin Diaz, avec Coach Courbis. On est là jusqu'à minuit et avec Lucas qui nous appelle, supporter de Strasbourg. Salut Lucas.
Salut à tous. Bonsoir.
Salut Lucas.
Bienvenue sur RMC. Lucas. Bon, j'imagine que l'analyse là pour le Racing qui ne gagne toujours pas, certes, c'est elle est bien différente à la fin du match que si on s'était eu à la pause.
Oui, ça oui. Ça oui. Après, au final, elle reste un peu la même que depuis tous les autres matchs, quoi. On en revient à la même chose, le jeu est inexistant. Alors, ok, la deuxième était un peu meilleure.
Est-ce que tu n'as pas fait quand même la deuxième période, ta meilleure mi-temps depuis le début de saison?
Ouais, mais après, on a sûrement aussi affronté une des plus nulles équipes depuis le début de la saison. Avec tout le respect que j'ai pour Marseille, mais Marseille était très faible en deuxième. Mais oui, heureusement qu'il y a cette deuxième mi-temps, quoi. Après, je ne sais pas du tout de là où je suis en tribune, j'ai l'impression qu'il n'y a pas faute sur le gardien. Je ne sais pas, vous, de l'extérieur, si le but est justement.
Il y a un petit contact, il le touche, franchement, c'est juste. Je pense qu'il y a.
C'est vrai, si ce but est validé, on n'a pas forcément peut-être le même discours en fin de match. Mais non, moi.
C'est un bon match de Strasbourg aujourd'hui. Ok, t'as une première mi-temps moyenne.
Ouais, la première.
Non, mais t'as une première mi-temps moyenne. Mais dans l'ensemble, c'est un bon match.
On s'en sort avec un bon point contre l'OM. Mais après, comme dit, après, j'ai pas entendu ce que vous avez dit sur l'OM, enfin, du début, mais l'OM, voilà, quoi. L'OM, c'est la plus nulle équipe à l'extérieur depuis le début de la saison. Ils ont fait, alors, la première, elle était un peu cohérente, mais bon, nous, on était existants. Mais la deuxième, Marseille, je les ai pas trouvés dangereux un seul moment, quoi, par leur action tout de suite en début de deuxième.
Tiens, petite parenthèse, Lucas Gattuso, oui, qui vient de parler au micro du diffuseur, il a dit la deuxième mi-temps c'était une merde. Voilà, je cite Gattuso dans le texte.
Dans la tirelire aussi.
Voilà, et Gattuso, on va l'appeler, il va mettre 100 euros dans la tirelire. Non, mais comme quoi, il partage l'analyse que tout le monde fait de la deuxième période de l'OM, qui est raccord finalement aussi avec la deuxième période de Strasbourg. Bon. Après, moi, je pas à nouveau, quoi, aussi, Lucas, il va falloir gagner à un moment donné.
Je voulais surtout revenir sur la première qui était d'une nullité. Quand on voit les discours qui sont rabâchés depuis là trois semaines parce qu'il n'y avait pas de match, comme quoi ils ont enfin réussi à travailler offensivement des tactiques. Alors, ok, offensivement en deuxième, c'était mieux. Mais en première, j'avais l'impression de voir une équipe de district. On jouait que des longs. J'avais l'impression c'était la 90e. On dégageait toutes les balles qu'on avait. Devant, on a un attaquant, il fait 2 mètres de haut, il touche pas une balle. Alors ok, mais son but, j'ai envie de dire encore heureux, parce que sinon, il est encore une fois inexistant. Alors faut peut-être pas qu'il m'écoute, parce qu'il risque encore de s'énerver et de supprimer de nouveau tous ses posts sur Instagram et en rapport avec le club.
Mais c'est ça, pardon, j'ai pas entendu.
Je parle des méga depuis le début.
Ah ouais, ouais. Ok.
Mais c'est franchement, après ça allait un peu mieux.
C'est quoi l'histoire d'Instagram?
Bah, il y a quelques critiques qui ont été sorties après quelques journées sur Twitter. Et alors,
ça dépend les critiques. Elles étaient insultantes ou elles étaient cohérentes?
Ouais, après, c'est comme partout. Il y avait de tout, hein. Il y avait de tout. Mais ça, quand ça commence comme ça, t'es nouveau dans un club. Après, la première critique, tu réagis comme ça. Ça dit déjà long sur la mentalité du bonhomme, quoi.
Coach,
pour les deux équipes là de ce soir, Strasbourg et l'OM, il y a quand même deux matchs en retard qui vont être plus qu'importants. Strasbourg-Brest, c'est pas évident du tout. Et OM-Lyon, rencontrer Lyon avec l'obligation tout à fait logique de prendre trois points. Le football reste le football. Ouverture du score de Lyon. Et ça peut, si tu veux, être complètement délicat. Donc là, on attend avec impatience que le calendrier soit terminé pour pouvoir un petit peu voir où en sera Strasbourg et où en sera l'OM.
Mais là, Strasbourg, concrètement, ce soir... Attends, parce que j'ai perdu mon classement. Strasbourg est ce soir 12e avec 13 points. Premier barragiste, Lorient 16e à 11 points. Bon, c'est très serré, mais si on voit la deuxième période, Kevin et coach, bon, on se dit qu'il y aura bien, il y a bien trois équipes qui seront moins fortes que Toulouse à la fin de l'année, que Strasbourg à la fin de l'année, quand on voit la deuxième période.
Écoute, ça, c'est le discours d'un certain GB dans l'after. Mais c'est vrai que cette équipe strasbourgeoise, moi, j'ai bien aimé dans la deuxième mi-temps, notamment l'entrée du petit jeune Dylan Bakwa, qui a fait vraiment du bien. C'est un bon joueur, on l'a déjà vu.
Il a frappé sur la barre.
Moi, je l'avais déjà vu en équipe de France de jeunes. Je l'ai vu aussi pour le coup au Lusitanos de Saint-Maur en U13 à l'époque. Et puis surtout à Bordeaux. Mais c'est un bon joueur. C'est un joueur qui a amené du peps là devant. Gamero, j'ai bien aimé. Hein, Gamero.
Surprenant.
Ouais. Très très bon match comme ça, un peu en 9,5. Il a été très très difficile à prendre pour la défense marseillaise, même si bon, on a dit que la défense marseillaise a été quand même en grande difficulté pendant un bon moment dans ce match. Mais voilà, même Perrin le Marseillais, qui a été bon. Il a pris pas mal de coups, mais il a été bon. Et puis le gardien, voilà, on sait que Matsels, s'ils se maintiennent en Ligue 1, ils pourront encore une fois dire un grand merci à leur gardien.
Je remercie Lucas d'avoir été là ce soir. À bientôt, Lucas.
Merci à vous. Bonne soirée tout le monde.
Allez, bonne soirée Lucas. À toi. À très vite, Lucas. Bye bye. Strasbourg, un petit coup d'œil la semaine prochaine. C'est Reims pour Strasbourg. Déplacement à Reims. Ce sera vendredi. Vendredi 21h.
Pas facile.
Non. Après, d'ailleurs, deuxième déplacement, parce qu'il y aura Brest, le match en retard dans la foulée.
Eh oui.
La semaine qui suit pour les Strasbourgeois. 23h27, c'est l'after sur RMC en direct jusqu'à minuit. Merci de nous avoir choisi. Coach Courbis est là, Kevin Diaz également. Dans un instant, Lens, la remontada continue. Victoire 3-0 à Clermont cet après-midi. Mais Lensois, mais Clermontois, je vous attends au 32-16. Venez débattre avec l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Thibaut Giangrande.
23h32. On passe la soirée ensemble sur RMC. Avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz, avec vous tous en direct à la radio sur RMC, en direct vidéo sur la chaîne YouTube de l'after. @after-foot. Vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée. Ou encore mieux, au 32-16. Vous nous appelez. Adrie répond au standard. Et il vous met à l'antenne et vous venez débattre en direct avec l'after. Julien Laurent sera avec nous dans une dizaine de minutes. Énorme journée en Angleterre aujourd'hui. Il va tout nous raconter, surtout avant la semaine européenne qui arrive et ces duels franco-anglais qui nous attendent en Ligue des Champions. Déclat de Gattuso, là, à l'instant, en conférence de presse. Mot très fort ce soir de Gattuso. Je vous ai déjà donné une citation tout à l'heure un peu brute. Et là, il dit « C'est une tragédie. Je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça en deuxième période. Porter ce maillot, c'est une responsabilité. Je préfère perdre 4-0 que de jouer comme ça en deuxième période. » Voilà ce que dit Gennaro Gattuso ce soir. Vous retrouverez l'intégralité de la conférence de presse sur rmcsport.fr.
Je pense quand même qu'il préfère avoir fait un partout.
Ouais. Bon, je pense.
Je pense. Lens. Pendant ce temps-là, Lens qui était dernier de Ligue 1, il y a quelques semaines encore, Lens est sixième de Ligue 1 ce soir, assuré d'ailleurs de rester au moins à cette place, enfin de rester à cette place à l'issue du week-end, puisque le trou est fait derrière. Victoire 3-0 à Clermont, but de Wahi Thomasson et Wesley Saïd. Encore un clean sheet pour les Lensois, huitième match de suite sans défaite pour Lens, qui n'est donc désormais qu'à 4 points. Qu'à un point de la quatrième place, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. La remontée des Lensois continue, elle est impressionnante. En fait, bah, on a retrouvé le Lens de la saison dernière là, en ce moment.
Non, ah ouais, même pas.
Peut-être pas, mais un Lens quand même intéressant.
Non, Kevin, tu trouves pas pour aller coller le 3-0 à Clermont, qui était bah, sur bah, un mieux aussi quand même. Hein.
Attention. Je pense que n'importe quelle équipe qui joue contre un gardien qui a décidé de faire ce genre de passe latérale,
ouais, le deuxième but
de son
incroyable.
But,
ouais.
Forcément, ça, parce que c'était quand même assez équilibré ce match, ouais. avant cette erreur quand même incroyable. Franchement, elle est incroyable. Tout le monde fait des erreurs, il y a aucun problème, hein, peu importe le métier. Mais là, celle-là, en plus en toute nonchalance, hein, quoi. Il a fait la passe latérale puis derrière, il a trottiné vers son but, quoi. Bon, en même temps, c'était trop tard. Mais disons que Lens, par contre, ils ont réussi à profiter, voilà, des fautes de l'adversaire. Et puis ils ont gagné un match de façon assez clean, finalement, en tout cas au niveau du score. Donc bravo Lensois, parce que petit à petit, ils font pas trop de bruit. Mais encore une fois, quel travail de Francaise qui arrive toujours à mettre en place son équipe pour. Peu importe les individualités, quand même performer de belle manière.
Et qui a fait tourner en plus un petit peu intelligemment, oui, ben sur le banc, Sotoka aussi avant la Ligue des Champions et Arsenal mercredi, oui Roland.
Donc je dis, j'attends avec impatience, même si Arsenal est largement favori. Bah ça fait. Les matchs, il faut les jouer, que Lens puisse accrocher à Arsenal dans ce prochain match là. Je pense que c'est possible.
Lens qui est troisième de son groupe de Ligue des Champions, mais ex aequo avec le PSV avec 5 points à 4 points d'Arsenal. Et Christopher, supporter sans et or, nous appelle au 32-16. Salut Christopher.
Salut les gars, vous allez bien?
Écoute, pleine forme pour ma part.
Salut Christopher.
Et toi, comment ça va Christopher?
Bah ça va, victoire
belle victoire dans l'après-midi à 17h, qui n'est jamais le meilleur horaire un samedi, mais ça fait toujours plaisir.
Est-ce que tu retrouves un peu quand même ton Lens de l'année dernière? En fait, moi je trouve que sans retrouver la flamboyance de Lens de l'année dernière, tu retrouves une efficacité que t'avais plus, que t'avais pas, oui, en début de saison. Et là, que ce soit défensivement ou offensivement, c'est quand même beaucoup mieux de ce côté-là.
Alors je suis d'accord avec Kevin. Je dirais que c'est pas encore le Lens de l'année dernière, loin de là même. Par contre, on a retrouvé une solidité défensive. Il me semble que ça fait plus de 450 minutes qu'on n'a pas pris de but en Ligue 1. Donc bon, c'est quand tout va très mal. Effectivement, ça allait très mal, mais autant se rassurer avec la partie défensive. Donc c'est déjà un très gros point. Justement, en plus de dépasser les mérites, je trouve ça vraiment pas mal. Et après, ce que je disais au standard, c'est que pour moi, c'est une bonne victoire dans l'apprentissage des jeunes. Kouzanov, El Aïnaoui et Wai, même si dans son malheur, il l'a provoqué, hein, le rouge pour moi, il l'a mérité. Il n'a pas réagi comme ça et je pense que ça va l'aider dans son apprentissage de la Ligue 1. Ça va les faire grandir, ça fait grandir le groupe, ça fait grandir les jeunes qui sont avec nous. Francaise, il est là pour bien encadrer tout le monde, encadrer un jeune comme Wai. Je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais Aïs, il a repris Wai quand il y a eu la petite échauffourée. Hein. Il est directement allé prendre Wai, il l'a mis sur le côté. On sent que c'est un petit peu le papa avec son fils. Donc ouais, ça fait plaisir à voir, même s'il y a eu le rouge ce soir. Ouais.
C'est ouais. Sûr que ça doit lui servir de leçon, Wai. Puisque bon, là, c'est vraiment l'exemple d'un jeune joueur qui pète un boulon trop rapidement. Et c'est sûr que ça doit lui servir pour que ce soit la dernière fois. Son équipe a besoin de lui.
C'est vrai que Wai,
il était déjà énervé. Hein. Il a été énervé après son but. Il a fait le chute à la caméra.
Ouais, d'accord. D'ailleurs, on sait pourquoi il a fait ce geste-là.
Moi, de ce que j'en crois, c'est qu'il y a quelques critiques sur Twitter quand même. Même s'il faut prendre à boire et à manger sur X, pardon. Faire un peu taire les critiques, peut-être potentiellement des médias. Donc, je pense que. Il faut pas montrer, c'est pas le genre de truc à montrer, mais encore une fois, il est très jeune, il va apprendre, j'espère en tout cas qu'il aura plus ce geste-là et que.
C'est vrai que Wai, c'est un peu, ça doit être un peu frustrant, quoi, quand t'es supporter lensois, parce que tu sens et tu vois, et franchement, on le voit tous, le talent, bien sûr, le feu, et d'un autre côté, tu vois, de la même manière, un manque de maturité au fou aussi, en fait,
Ce match, il résume totalement Wai. Il y a tout est bon au départ, même un but de la tête où il lobe le gardien alors qu'il c'est pas le plus grand de l'équipe et au final,
il prend ce rouge. Roland, un joueur comme Wai, un jeune joueur qui a 20 ans, bon, il n'y a pas de doute sur son potentiel. Est-ce que tu penses qu'il peut rapidement grandir, rapidement mûrir,
oui,
en étant bien entouré? On voit que Aïs et ses coéquipiers, même on se souvient de Thomasson dans l'after il y a quelques semaines qui disait que voilà, ses coéquipiers ne le lâchaient pas.
Absolument, parce que bon, je le connais un peu. C'est quand même un garçon attachant, toujours en train de déconner, toujours une connerie à dire. Non, et là, il y a quand même un coach très intelligent et ses coéquipiers. Des garçons comme Sotoka, ils vont s'occuper de lui. Enfin, ils s'occupent de lui pour que justement ce qui s'est passé aujourd'hui, il faut que ce soit impérativement la dernière fois.
Non, mais c'est inadmissible. Même quand t'es un jeune joueur, je suis désolé. Tu dois quand même maîtriser tes émotions. C'est le propre d'un footballeur de haut niveau. Même si, bien sûr, on va être indulgent et on va pas le mettre de côté du côté de Lens ou même nous-mêmes. Mais il y a un moment, il faut quand même que les jeunes joueurs, la jeunesse, ça excuse pas tout. Là, je suis désolé, t'as pas le droit de faire ça. Tu dois maîtriser tes émotions, même si, attention, c'est pas toujours facile.
Christopher, Arsenal, mercredi.
Je serai avec vous en plus à la libre antenne après sur place en plateau pour débriefer.
Ah mais non, mais magnifique. Prépare tes meilleures imitations, hein, Christopher.
Tes meilleurs Barcelonais aussi.
Allez, un petit match nul. Ça serait pas
mal. Le match nul ramène l'apéro. Enfin, pardon.
Ouais, mais tu sais quoi, dans le doute, ramène-le quand même. Merci Christopher en tout cas d'avoir été là ce soir.
Merci les gars.
Bon week-end. Je te dis à mercredi, Christopher.
Salut Christopher.
Avec plaisir. Bye bye Christopher. Un mot de Clermont, les gars. Qui prend 3-0 contre Lens ce soir. Clermont 17e, 9 points. Il y a Lyon qui jouera demain, qui est 2 points derrière. Lorient qui est 2 points devant. C'est pas contre Lens qu'il va falloir aller chercher les points de toute façon. Hein,
est-ce clairement. Qu'on va avoir le syndrome du nouveau stade? C'est-à-dire le club qui fait son nouveau stade et qui du coup descend en Ligue 2 et des fois il reste 5 à 10 ans. Je leur souhaite pas au Clermontois, mais mais je voyais le
syndrome
stade
Grenoble ou des trucs comme ça là.
Il y a pas que Le Mans, Le Havre.
C'est sur les deux dernières années,
Valenciennes,
une équipe comme Clermont, un club comme Clermont, avec donc des possibilités financières moyennes, qui arrivaient même pas la saison dernière, ils ont même pas tremblé alors qu'il y avait quatre descentes. Mais cette année, je pense qu'ils vont trembler jusqu'au bout, et c'est tout à fait normal. C'est les deux autres saisons que nous venons de vivre qui pour moi je trouvais ça époustouflant qu'ils soient même pas inquiets de la descente.
Clermont qui rejouera également mercredi, mais pas en Ligue des Champions. Clermont ira à Montpellier. C'est le match à rejouer, le fameux Montpellier.
Ah oui.
Clermont où Montpellier menait.
C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais,
c'est mercredi prochain.
On parlait de match en retard de Lyon.
Il y en a un paquet. Il y en a deux.
De Strasbourg. Ouais.
Dans un instant, Julien Laurens, la Ligue des Champions, la première ligue, mais la Ligue des Champions pour nous, puisque Arsenal, l'adversaire des Lensois, justement, jouait aujourd'hui. Newcastle, l'adversaire du Paris Saint-Germain, était également sur le pont. La grosse affiche entre les deux leaders, entre City et Liverpool. Bref, énormément d'actu, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Julien Laurens est là. 32-16, si vous avez regardé, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas. L'After est là en direct jusqu'à minuit avec Roland Courbis, avec Kevin Diaz. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Merci d'avoir choisi RMC en ce samedi soir. Nous sommes le 25 novembre. Kevin Diaz et Coach Courbis sont là. On est en direct jusqu'à minuit avec Julien Laurens qui nous rejoint. Salut Juju.
Salut Thibaut, salut à tous.
Une grosse journée de Première Ligue, Julien. Déjà de base une grosse journée, mais en plus quand on voit le programme de la Ligue des Champions la semaine prochaine, double grosse journée. Alors dans un instant, on va se pencher sur les adversaires des clubs français. Newcastle mardi pour le Paris Saint-Germain, Newcastle qui a battu Chelsea, Arsenal qui a gagné à Brentford, adversaire de Lens. Mais d'abord quand même, ce City-Liverpool, c'était le premier contre le deuxième. Match nul un partout, match nul... équitable.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est le classement avec autant d'équipes qui peuvent être champions.
Ouais. Tu veux qu'on fasse alors point classement tout de suite et après je te rends la main, Julien, sur ce City Liverpool. Mais du coup, avec sa victoire et le nul entre City et Liverpool et sa victoire, Arsenal prend la tête, 30 points. City deuxième, 29 points. Liverpool troisième, 28 points. Tottenham quatrième, 26. Aston Villa cinquième, 25. Et puis tiens, on va aller jusqu'à Newcastle, 23. Brighton, 22. United, 21. En fait, il y a un point d'écart à chaque fois.
Aston Villa qui joue demain. Exactement. Ouais. Donc, la victoire de Tottenham, il viendrait avec 29 points en seconde place avec Zeko. Voilà, à hauteur de City. Et si Villa gagne, eux, ils reviennent à la hauteur de Liverpool.
Contre qui demain ils jouent?
Tottenham, Aston Villa, l'un contre l'autre.
Ah oui.
Oh, bon.
Ouais. Belle affiche. 15h, ouais, Tottenham, Aston Villa.
Là, je vais le regarder.
Plus Everton, United, à 17h. Bon, alors, ce City-Liverpool, Julien, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match,
Faut retenir que Manchester City déjà pouvait égaler un record assez incroyable d'ailleurs d'une 24e victoire de suite à domicile, ce que seul Sunderland a fait dans l'histoire du football anglais. C'était il y a très longtemps, c'était à la fin du 19e siècle. Les Citizens se sont arrêtés à 23, donc 23 victoires de suite à domicile, toutes compétitions confondues, puisque Liverpool a mis un coup d'arrêt à cette série assez incroyable de Pep Guardiola et ses joueurs, avec ce 1 partout où au final City a plutôt bien contrôlé dans l'ensemble, en tout cas la majeure partie de la rencontre. Ils se sont créés des occasions, ils auraient pu marquer un deuxième but. Liverpool aussi a eu des occasions, on a vu Darwin Núñez en bonne position qui encore une fois a manqué d'efficacité, même si il se procure ces occasions là c'est bien d'être au bon moment dans les bonnes positions, mais dans sa finition ça laissait encore un petit peu à désirer, comme trop souvent malheureusement depuis qu'il est arrivé au club. Et puis je pense que voilà, City sera sûrement un petit peu déçu parce qu'ils ont pris l'avantage déjà, but d'Erling Haaland qui avait jamais marqué encore contre Liverpool dans la saison dernière, et qui est ce but d'Alexander Arnold, en plus la façon dont il arrive, le ballon de Salah, tout ça c'est un peu prévisible finalement. Ils se font quand même avoir dans une zone du terrain où ils devraient pas se faire avoir. C'est la zone du terrain axiale comme ça où t'as le plus de densité finalement, et que Alexander Arnold arrive à faire contrôle et frappe coup de pied comme ça là où normalement t'as pas d'espace, t'as pas le temps pour le faire.
Rapide, rapide contre les frappes.
Ah oui, super rapide, c'est vrai, coach, tu as raison. Mais tu vois, en termes de densité, normalement, tu peux pas à la 81e minute autoriser un joueur comme lui à faire ça. Donc, ils sont un peu déçus, forcément.
Célébration aussi légendaire.
Ah oui, légendaire, parce qu'on avait beaucoup parlé de Trent comme étant le point faible avant la rencontre, notamment face à Jérémy Doku. On pensait que Doku allait lui faire la misère, et au final, que ce soit lui qui vienne prendre ce point pour Liverpool, ne pas autoriser la victoire à City. C'est vrai que c'était un joli pied de nez finalement à toutes les critiques un petit peu, tous les mêmes qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et tout ça. Et Trent le savait très bien, donc il a comme disent les Anglais, il a chuché, donc il a fait chute à tout le monde avec son doigt. Ouais. C'est vrai que c'était.
Je connaissais pas.
Son air régalé.
Julien, dis-nous avec l'accent, il a chuché.
Il y a la série
record, ok, c'est un record extraordinaire, mais c'est surtout deux points de perdu pour la course au titre, compte tenu du classement, comment il est.
Ouais, tu as raison. Et puis c'est pas la première fois non plus que City perd des points un petit peu comme ça. On l'a vu à Wolverhampton, on les a vu à Arsenal en fin de match. Là, c'est encore en fin de match qu'ils encaissent ce but qui leur coûte deux points. Ils encaissent des buts aussi assez régulièrement. On a vu les quatre. Très fier. Mais tu sais, c'est trop souvent comme ça, Kev, dans les matchs comme ça, où je pense qu'il l'a un peu en travers de la gorge. Voilà, un peu mauvaise, mais à la fin du match, c'est toujours, on a fait un match fantastique, je suis très fier des joueurs, très fier des garçons. Mais rappelez-vous, ils en avaient pris 4 à Chelsea pour faire match nul 4-4 juste avant la trêve internationale, où encore une fois, ils menaient en fin de match. Ils se font rattraper. Là, encore une fois, ils mènent en fin de match à domicile, ils se font rattraper.
Deux points perdus.
Ouais, tu sais, ils ont quand même une différence de but de plus 20. Mais bon, plus 20 après 13 journées pour eux. Et surtout quand tu vois que Liverpool a plus 17, Arsenal a plus 17 en général. Même à cette période de la saison, ils sont loin devant en termes de différence de but. Là, même ça, c'est pas comme ça.
Julien, pour te dire la vérité, là, je suis en train de regarder la première minute du match. Parce qu'elle est retransmise là en ce moment sur le diffuseur. Mais la première minute du match, déjà, elle est extraordinaire en fait. Il y a un pressing à droite, ça va à gauche. Là, ça repart à droite. Mais quand même, il y a une équipe dont je ne sais pas si on en parle beaucoup en Angleterre. En tout cas, on en parle beaucoup moins ici en France, vu qu'elle n'est pas dans la grande Coupe d'Europe, donc dans la Ligue des Champions. Mais Liverpool, c'est pas si mal quand même.
Non, c'est pas si mal. Hein, c'est pas si mal du tout. Juste pour finir sur City rapidement, vas-y. Kev, avant. On a vu Ederson exceptionnel dans son jeu au pied, dans sa distribution, pour notamment mettre à mal le pressing de Liverpool qui est toujours très agressif, très haut. Et il y a quelques passes, notamment une juste avant la mi-temps, où il élimine 6 joueurs d'une seule passe pour Bernardo Silva, en plus au sol, bien frappé, qui fuse et tout, magnifique. Et après, t'as un 3 contre 2 finalement que City négocie plutôt bien, et c'est un super arrêt d'Alisson sur une frappe de Foden. Donc voilà, si vous regardez le match, prêtez vraiment attention au jeu au pied d'Ederson qui est fantastique. Et surtout si tu le compares à celui d'Alisson, qui lui en revanche est à côté de la plaque complètement.
Ederson, excuse-moi, ça reste pour moi le principal joueur dans la victoire lors de la finale contre l'Inter.
Aussi. Mais c'est vrai que aujourd'hui c'est une masterclass de jeu au pied, tout ça. Et puis Erling Haaland surtout, hein, le but, 50 buts en Première Ligue en 48 matchs, il explose le record d'Andy Cole qui avait marqué 50 buts en 65 matchs. Donc c'est même pas il explose, c'est que il le défonce complètement. Donc voilà. Et pour Liverpool, Kev pourrait pulvériser, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et Kev, t'as raison, c'est très bien Liverpool. Surtout que tu sens qu'il y a encore une marge de progression assez intéressante au milieu de terrain, notamment pour McAllister, pour Szoboszlai, pour Curtis Jones, même pour Darwin Núñez. Si Darwin Núñez marque ses occasions aujourd'hui, le score final peut être vraiment différent. Donc c'est vraiment intéressant.
Les gars, il faut qu'on avance. Juste petite stat, Roland, je te signaler, Guardiola n'a fait aucun changement aujourd'hui.
Ça, c'est incroyable. Ça.
Mais ça...
Et il est incroyable. Il a réclamé les 5 changements et c'est peut-être l'entraîneur qui fait le moins de changements.
Ouais. Si tu veux, c'était peut-être une bonne idée, mais là, au moment où on se parle, peut-être il regrette de ne pas avoir fait ces changements.
Alors les gars, Newcastle, l'adversaire du Paris Saint-Germain, mardi au Parc en Ligue des Champions. Newcastle qui a collé 4-1 à Chelsea. Là aussi, beaucoup de choses à dire, Julien, de l'erreur de Thiago Silva, carton rouge de Reece James. Bon, à Saint-James Park, de toute façon, c'est toujours fort en fait. Hein.
Ouais, c'est souvent fort. Tu as raison, c'est plus à l'extérieur où ils ont du mal. On l'a vu à Dortmund, notamment en Ligue des Champions. Là, ils ont bénéficié aussi d'un non-match de la part de Chelsea, même s'ils sont revenus à un partout sur le but de Sterling. Pochettino l'a dit à la fin du match, ils sont passés au travers. Voilà, il était très fâché, très énervé. Ça peut arriver à l'image de Thiago Silva, mais tu l'as dit, c'est une bourre déceptionnelle.
Ça fait 4-4-8 au niveau de la solidité.
Ouais, ça fait beaucoup de buts encaissés. Tu as raison, mais en général, tu sais, là ils sont forts, mais on l'avait déjà dit dans l'émission ou dans l'after du lundi soir avec les drôles de dames. C'est une équipe qui a pas encore son jeu en place, qui a aucune structure tactique vraiment en place, de circuit préférentiel, de sortie de balle, même de pressing collectif. C'est une équipe qui finalement est bonne quand elle met beaucoup d'intensité et un peu de folie comme on l'a vu contre Manchester City finalement, tu vois. Donc il concède des buts, il concède des occasions, il s'en crée, il marque, mais ce soir cet après-midi, il y avait aucune intensité, aucune agressivité, en tout cas pas le niveau requis pour pouvoir mettre à mal une équipe de Newcastle chez elle, même qui a beaucoup de blessés, même qui a quelques doutes par-ci par-là. Aujourd'hui, Chelsea était bien trop loin de ce niveau d'intensité là.
Newcastle qui va venir au Parc mardi, bon, à l'extérieur c'est toujours plus dur, il y a quelques absents. Comment tu, toi qui suis aussi pas mal le Paris Saint-Germain, comment tu sens le truc là?
Ouais, alors c'est vrai qu'ils ont eu un peu plus de mal à domicile, on va dire, à l'extérieur, pardon, qu'à domicile. Ils vont être agressifs, c'est sûr. On a vu Joel Linton encore, Bruno Guimaraes, ils ont ce jeune milieu de terrain, Louis Smiley, qui a que 17 ans, qui est un peu le Zaïre Emery, côté Newcastle, qui est dans une famille de footballeurs. Ils sont quatre garçons, tout le monde joue au foot, ils sont tous très forts, ils sont tous au centre de formation de Newcastle. Ce sera peut-être un petit peu léger pour lui, je sais pas s'il débutera ou pas, mais en tout cas, il a été plutôt bon aujourd'hui. On a vu un très bon Anthony Gordon, qui pour moi sera un petit peu la clé de ce match. S'il arrive à gêner Hakimi, notamment en transition offensive, dès que Newcastle récupère le ballon en contre-attaque. Ils ont récupéré Isaac, qui a marqué, qui a joué 80 minutes. De retour de blessure, c'était plutôt pas mal.
Joel Linton aussi.
Donc, Joel Linton qui était là aussi au milieu de terrain. Et lui
mais
aussi,
il n'était pas là au match aller. Les Français vont le découvrir. C'est un joueur particulier, un attaquant reconverti milieu de terrain. C'est un peu ça.
Ouais, c'est ça, exactement. Alors, ça remonte un petit peu aussi.
Oui, bien sûr.
C'est le travail d'Eddie Howe, mais c'est vrai que c'est un joueur vraiment vraiment intéressant, qui fait du mal à l'impact et à la récupération du ballon, et lui quand il a le ballon
quand on sait ce qu'a fait Loftus-Cheek contre le PSG,
c'est ça,
c'est un peu le même profil.
C'est le même profil, effectivement.
Passons à Arsenal. Les Lensois t'écoutent, Julien. Victoire 1-0 à Brentford. 89e minute, le but de Kai Havertz. Et là, on peut être inquiet pour les Lensois parce qu'on se dit que si même Kai Havertz commence à marquer.
Ouais, surtout qu'ils se rappelleront qu'il avait raté une grosse occasion au match aller lors de la victoire 2-1 à Bollard. Super sub qui entre en jeu comme ça. Un ballon de Bukayo Saka, un super centre au second poteau comme ça. Le même qu'il avait fait pour Trossard contre Chelsea pour aller arracher un match nul de partout là-bas. Pareil à la 84e minute. Là, c'est encore le même mouvement de Saka, mais cette fois vers Havertz. Une victoire qui mérite, même si Brentford a eu notamment une énorme occasion sur une grosse erreur de Ramsdale qui jouait parce que Raya n'a pas joué contre son club parent, comme disent les Anglaises, lui qui est prêté par Brentford encore à Arsenal cette saison. Mais Arsenal qui a encore des belles choses, je trouve, même si dans l'ensemble, ils auraient pu faire, dans son ensemble, sur la rencontre-là, ils auraient pu faire peut-être plus avec le ballon notamment. Mais il y a encore des grosses occasions. Il y a un but de Trossard refusé pour, à juste titre, hein, mais pour quelques millimètres simplement de hors-jeu. Il y a quelques occasions pour Gabriel Jesus, pour Nketiah en fin de match aussi. Donc Saliba très solide défensivement, encore une fois. J'ai trouvé Declan Rice exceptionnel devant la défense, vraiment fantastique joueur. Et ce sera dur parce qu'à l'Emirates, là c'était à Brentford, à l'Emirates c'est aussi une autre équipe, cette équipe d'Arsenal. Donc faudra faire un exploit pour Lens, faudra que tout soit parfait quasiment, aucune erreur défensive, l'efficacité offensive dans la surface d'Arsenal. Ils doivent y croire, ils peuvent y croire bien sûr.
Ce sera la grosse équipe ou il y aura des absents
Je pense que ce sera la grosse équipe.
Ouais.
Je pense qu'il leur manque un point à Arsenal pour se qualifier, pour finir même premier du groupe peut-être, je crois.
Ils vont plus jouer comme à l'aller, quoi.
Ouais, et puis surtout à l'aller, ils avaient été très très surpris par l'intensité mise par Lens. Donc là, au moins ils seront prévenus, ils devraient pas refaire les mêmes erreurs.
Merci Julien.
Donc le match nul,
merci les gars.
Julien, c'est intéressant pour les deux équipes.
Ah, le
c'est
coup,
vrai,
tu
coach,
il prépare sa soirée déjà.
Ah bah oui, bien sûr. On le connaît.
Salut Julien.
Ciao, ciao, ciao les gars.
Dans le drôle de dame. Bon week-end. Bye bye Julien. 20h-22h, Génération After spécial drôle de dame sur RMC. Je vous rappelle avant de nous quitter que les podcasts club sont toujours dispo. L'After Lyon, bien sûr. After Paris. After Marseille également, n'hésitez pas si vous voulez encore plus d'after là juste après minuit, n'hésitez pas à aller écouter ça, c'est tout frais de cette semaine. Coach, merci beaucoup.
Salut.
Bonne nuit, merci
salut,
à vous Kevin, à
salut
très
à
vite.
Tous.
Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Toto, à la réalisation, à Nico Ledru, à la prod et à Adri au standard. Merci surtout à vous d'être là, fidèle à l'after, que ce soit à la radio, sur YouTube désormais. On vous souhaite une excellente nuit, l'after revient demain 20h pour la grande soirée Ligue 1. Ciao tout le monde.
RMC, l'after foot.